Chapitre 12. Black Hole. On est libre qu'en étant seul. Arthur Schopenhauer. 1. L'agence de Karen Liberman avait ses bureaux rue de la Coutellerie, dans le premier arrondissement, pas très loin de l'hôtel de ville et du centre Pompidou. Gaspard n'était venu ici qu'une seule fois, 12 ans plus tôt, lors des débuts de sa collaboration avec Karen. Le reste du temps, c'était son agent elle-même qui se déplaçait. Et Gaspard regrettait de ne pas en avoir exigé autant cette fois-ci. Le trajet depuis la rue du Cherche-Midi l'avait replongé dans l'ambiance agressive et sinistre de ce Paris grisâtre. Il avait les nerfs à vif, l'impression d'être en terrain hostile, et la sensation de manque n'arrangeait rien. L'endroit était tel qu'il s'en souvenait. Un porche un peu décrépit, recouvert d'une multitude de plaques de profession libérale qui permettaient d'accéder à une courette sans caractère, où s'élevait un deuxième immeuble, bien moins cossu que celui qui donnait sur la rue. De la taille d'un cercueil, l'ascenseur était d'une lenteur affligeante. Surtout, il donnait l'impression de pouvoir rendre l'âme à tout moment. Après une hésitation, Gaspard décida de monter les 6 étages à pied. Il arriva hors d'haleine devant l'entrée, sonna et attendit qu'on débloque la porte avant de pénétrer dans des bureaux mansardés. Il constata avec satisfaction que l'entrée, où avaient été disposées quelques chaises pour servir de salle d'attente, était vide. Comme Karen avait sous contrat une 20aine d'écrivains, de dramaturges et de scénaristes, Gaspard avait redouté d'y croiser un de ses pseudo-collègues et de devoir se fendre de 5 minutes de bavardage et de civilité. La solitude a 2 avantages. D'abord d'être avec soi-même, ensuite de n'être pas avec les autres. Schopenhauer avait dit un jour un truc dans le genre, pensa-t-il, en s'avançant vers le bureau de l'assistant de Karen. C'était un jeune type qui croyait avoir un style. Barbe de hipster, tatouage faussement rebelle, coupe de cheveux undercut, bottes chukka et chemise en denim cintré. Alors qu'il n'était que le clone de tous ses potes qui avaient cherché à recréer Williamsburg et Kreuzberg près du canal Saint-Martin. Circonstance aggravante, le type dévisagea Gaspard avant de lui demander son nom d'un air méfiant. Un comble, alors qu'il assurait à lui tout seul les 3/4 du chiffre d'affaires de l'agence. « C'est moi qui paye ton salaire, tocard » s'énerva-t-il en se dirigeant d'autorité vers la porte du bureau de Karen sous le regard médusé de l'assistant. « Gaspard !» l'accueillit son agent. Alertée par les éclats de voix, elle avait contourné son bureau pour venir à sa rencontre. Corps de liane, cheveux blonds et courts, Karen Liberman frisait les 45 printemps, mais s'habillait de la même manière depuis Janson de Sailly. Jean 501, chemisier blanc, pull col en V et mocassin couleur Saint-Émilion. C'était l'agent de Gaspard, mais aussi son avocate, sa comptable, son assistante, son attaché de presse, sa conseillère fiscale et son agent immobilier. En échange de 20% de ses revenus, Karen était son interface avec l'extérieur, le bouclier qui lui permettait de vivre à sa guise et de dire merde à tout le monde, ce qu'il ne se privait pas de faire. « Comment va le plus sauvage de mes auteurs ?» Il l'arrêta sèchement. « Je ne suis pas ton auteur. C'est toi qui es mon employé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. » « Gaspard Coutances dans toute sa splendeur, » rétorqua-t-elle. « Goujat, bougon, ombrageux. » Elle l'invita à s'asseoir. « On n'avait pas rendez-vous au restaurant ?»« Avant, j'ai besoin que tu m'imprimes des documents importants, » expliqua-t-il en sortant son smartphone de sa poche. « Des articles que j'ai trouvés sur Internet. « Transfère-les à Florent. Il... » « C'est important, je t'ai dit. Je veux que ce soit toi qui le fasses, pas ton gigolo. »«
Comme tu voudras. » »«
Ah, j'ai eu Bernard Bénédic au téléphone. Il m'a assuré que tout était réglé à propos de la maison. La fille est partie, apparemment. Tu vas pouvoir en profiter. Seul. »
Il secoua la tête. « Comme si je n'étais pas au courant. De toute façon, je vais pas y rester. »«
Bien sûr, ce serait trop simple, » soupira Karen. « Je te sers un whisky ?»
Non merci, j'ai décidé de mettre la pédale douce sur l'alcool.
Elle le regarda avec des yeux ronds. Tout va bien, Gaspard ?
Il annonça tout net. Je ne vais pas écrire de pièce cette année.
Il put presque voir défiler dans l'esprit de Karen l'avalanche de conséquences qu'aurait sa décision. Dénonciation de contrat, désistement de salle, annulation de voyage. Pourtant, il fallut moins de 2 secondes à son agent pour demander d'une voix neutre. Vraiment ?
Pourquoi ?
Il haussa les épaules, et secoua la tête. « Une pièce de coutance de plus ou de moins, je ne pense pas que ça changera beaucoup l'histoire du théâtre. » Comme Karen demeurait silencieuse, il enfonça le clou. « Soyons honnêtes, j'ai fait le tour de la question. Ces dernières années, je me répète un peu, non ?» Cette fois, elle réagit. « Sur le thème « Le monde est moche, les gens sont cons », peut-être. Mais tu peux essayer d'écrire sur autre chose. » Gaspard grimaça. « Je ne vois pas très bien sur quoi. » Il se leva pour attraper une cigarette dans le paquet posé sur le bureau et sortit la fumée sur le balcon.
« Tu es amoureux, c'est ça ?»
s'écria Karen en le rejoignant. « Non, qu'est-ce que tu racontes ?»«
Je redoutais que ça t'arrive un jour, » se lamenta-t-elle.
Il se défendit. « Parce que je ne veux plus écrire, tu en conclus que je suis amoureux. C'est tordu comme raisonnement. »«
Tu as acheté un téléphone portable. Toi, tu ne bois plus. » Tu t'es rasé, tu n'as plus tes lunettes, tu portes des costards et tu sens la lavande. Alors oui, je crois vraiment que tu es amoureux. »
L'air absent, Gaspard tira sur sa cigarette. Le bruit de la ville bourdonnait dans la nuit douce et moite. Appuyé contre la rambarde, il fixait la tour Saint-Jacques, solitaire et incomplète, qui brillait à deux pas de la Seine. « Pourquoi tu m'as laissé dans ce trou ? » demanda-t-il soudain.
« Quel trou ?»
Celui dans lequel je végète depuis tant d'années. À son tour, elle alluma une cigarette.
Il me semble que c'est toi qui t'y es enfermé tout seul, Gaspard. Tu as même méticuleusement organisé tout le fonctionnement de ta vie pour être certain de ne pas en sortir.
Je sais bien. Mais quand même, on est amis, tu
es un dramaturge, Gaspard. Tes seuls amis sont les personnages de tes pièces.
Il poursuivit. Tu aurais pu essayer, tenter quelque chose.
Elle réfléchit un moment, puis « Tu veux la vérité ? Je t'ai laissé dans ce trou parce que c'était l'endroit où tu pouvais écrire tes meilleures pièces, dans la solitude, dans l'insatisfaction, dans la tristesse. »
« Je ne vois pas le rapport. »
« Au contraire, tu vois très bien le rapport. Et croisant mon expérience, le bonheur c'est agréable à vivre, mais ce n'est pas très bon pour la création. Tu connais tes artistes épanouis, toi ?»
Maintenant qu'elle était lancée, Karen développait sa pensée avec passion, adossée à l'embrasure de la fenêtre.
Dès qu'un de mes auteurs me dit qu'il est heureux, je commence à m'inquiéter. Souviens-toi de ce que répétait tout le temps Truffaut. L'art est plus important que la vie. Et ça tombe bien parce que, jusqu'à présent, tu n'aimais pas grand-chose dans la vie, Gaspard. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas l'humanité, tu n'aimes pas les enfants, tu...
Alors qu'il levait la main pour l'interrompre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran. Un appel en provenance des États-Unis.
« Tu m'excuses ?»
2. Madrid, 17h, et il faisait presque nuit. Avant de quitter son hôtel, Madeleine demanda qu'on lui prête un parapluie, mais n'obtint qu'un refus poli du type de la réception.
« Never mind. »
Elle sortit sous la pluie en décidant d'ignorer le mauvais temps comme elle ignorerait toutes les contrariétés. À deux pas, elle trouva une farmacia et y présenta son ordonnance. Antibiotiques pour se protéger des infections pendant l'opération et nouveaux dosages d'hormones pour stimuler la libération d'ovocytes. Un traitement novateur qui permettait de réduire de 24 heures le délai habituel entre l'injection d'hormones et le prélèvement d'ovocytes. Mauvaise pioche. Elle dut faire 3 autres officines pour obtenir ce qu'elle cherchait. À 18 heures, elle essaya de jouer à la touriste et de musarder entre Chueca et Malasaña. Théoriquement, c'était un quartier créatif et vivant. À la fin de l'été, Madeleine avait pris plaisir à déambuler dans ses rues colorées, ses friperies et ses cafés à l'ambiance festive. Aujourd'hui, c'était une autre histoire. Noyée sous le déluge, Madrid semblait vivre ses dernières heures avant l'apocalypse. Depuis le début de l'après-midi, un attelage infernal de pluie diluvienne et de rafales balayait chaque recoin de la ville, semant le désordre, provoquant des inondations et des embouteillages. Comme elle avait faim, elle se mit en tête de retourner dans le petit restaurant où elle avait déjeuné lors de son précédent séjour. Mais elle n'en retrouva pas le chemin. Le ciel était tellement bas qu'il menaçait de s'écorcher sur les coupoles à tambour qui dominaient la cité royale. Dans la nuit tombante et sous la pluie, les rues et les avenues se ressemblaient toutes, et le plan qu'elle avait pris à la réception de l'hôtel était en train de se décomposer entre ses mains. Calle de Hortaleza, Calle de Mejía la Carica, Calle Argensola. Les noms et les sonorités se mélangeaient. Sa vue se brouillait. Complètement paumée, elle échoua finalement dans un établissement vétuste. Le tartare de dorade qu'elle commanda arriva noyé dans de la mayonnaise et la tarte aux pommes n'était qu'à moitié décongelée. Précédant un long coup de tonnerre, un éclair puissant stria le ciel d'encre, figeant pendant un bref instant son reflet en négatif sur la vitre fouettée par la pluie. En découvrant son image, Madeleine fut prise d'un spleen inattendu. Sa solitude et son désarroi lui apparurent dans toute leur crudité. Elle repensa à Coutances, à son énergie et à son humour, à sa vivacité intellectuelle. Le misanthrope était un drôle de Janus, un personnage inclassable, attachant, contradictoire. Prisonnier d'un schéma mental, il dégageait malgré son pessimisme une force tranquille et rassurante. En ce moment, elle aurait bien eu besoin de son ressort, de sa chaleur et même de sa mauvaise foi. À deux, au moins, ils auraient pu râler ensemble sur leur galère. Madeleine avala ses antibiotiques avec un mauvais décap puis regagna son hôtel. Injection d'hormones, bain brûlant, demi-bouteille de Rioja trouvée dans le minibar qui lui fila presque instantanément la migraine. Il n'était même pas 22 heures lorsqu'elle se pelotonna dans son lit, sous les draps et les couvertures. Demain serait un jour important dans sa vie. Peut-être le début d'une nouvelle existence. Pour s'endormir sur une pensée positive, elle essaya d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'enfant qu'elle désirait. Mais aucune image ne se forma dans sa tête, comme si ce projet n'avait aucune réalité tangible et était condamné à rester à l'état de chimère. Alors qu'elle tentait de repousser cette vague de découragement et de trouver le sommeil, une image nette et puissante traversa son esprit. Le beau visage de Julian Lawrence, yeux rieurs, nez retroussé, boucles blondes, sourire irrésistible de petit garçon. Dehors, le déluge continuait. 3. Gaspard reconnut tout de suite la voix rocailleuse à l'autre bout du fil. Cliff Eastman, l'homme que Sean avait appelé à 3 reprises quelques jours avant de mourir. « Bonjour, monsieur Eastman, merci infiniment de me rappeler. » En quelques phrases, Gaspard apprit que son interlocuteur était un ancien bibliothécaire qui coulait en temps normal une paisible retraite dans l'agglomération de Miami. Mais à 3 jours de Noël, il se retrouvait coincé chez sa belle-fille dans l'état de Washington.
« 80 centimètres de neige !»
s'exclama-t-il.
« Circulation paralysée, route bloquée, même le wifi a sauté. Résultat, je m'emmerde comme un rat mort. »
« Prenez un bon livre !» hasarda Gaspard pour entretenir la conversation.
« J'ai rien sous la main et ma belle-fille ne lit que des niaiseries. Du cul et encore du cul. Mais je n'ai pas très bien compris qui vous étiez. Un type de la caisse de retraite de Key Biscayne, c'est ça ?»«
Pas vraiment !» répondit le dramaturge. « Est-ce que vous connaissez un certain Sean Lawrence ?»
« Jamais entendu parler, c'est qui ?»
Le vieux ponctuait chacune de ses phrases d'un claquement sonore de la langue. « Un peintre célèbre. Il a cherché à vous joindre il y a à peu près 1 an.
Ben, »« Peut-être bien, mais j'ai plus trop de mémoire à mon âge. Qu'est-ce qu'il me voulait, votre Picasso ?»«
Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. » Nouveau bruit de mâchouillage.
Ben, « Peut-être que c'était pas moi qu'il cherchait à joindre. » »«
Je ne comprends pas. »
Quand j'ai hérité de ce numéro de téléphone, j'ai reçu pendant quelques mois des appels de personnes qui souhaitaient parler au précédent titulaire de la ligne.
Gaspard fut parcouru d'un frisson. Il tenait peut-être quelque chose. Vraiment ? Comment s'appelait-il ? Il lui sembla presque entendre Eastman qui se grattait la tête à l'autre bout du fil.
Je sais plus trop, c'est loin tout ça. Le type avait le même nom qu'un sportif, je crois.
Un sportif ? C'est vague. Le fil de la mémoire du vieux était ténu, il ne fallait pas le casser ni le distendre. « Faites un effort, s'il vous plaît. »«
Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Un athlète, je crois. Ouais, un sauteur qui a fait les Jeux Olympiques. »
Gaspard convoqua difficilement ses propres souvenirs. Le sport n'était pas précisément sa tasse de thé. La dernière fois qu'il avait regardé les Jeux Olympiques à la télé, Mitterrand et Reagan devaient encore être aux affaires. Platini tirait des coups francs à la Juventus, et Frankie Goes to Hollywood trustait la première place du top 50. Il balança quelques noms pour la forme. Sergueï Boubka, Thierry Vigneron ?
Non, pas des perchistes. Un sauteur en hauteur.
Dick Fosbury ? L'autre s'était pris au jeu.
Non, un latino, un cubain.
Un flash. Javier Sotomayor.
Voilà, c'est ça. Sotomayor.
Adriano Sotomayor. Quelques jours avant sa mort, alors qu'il était persuadé que son fils était encore en vie, Sean avait demandé de l'aide à son vieux copain des artificiers devenu flic. Il existait donc quelqu'un à New York capable de l'aider. Quelqu'un qui avait peut-être repris l'enquête sur la mort de Julian. Quelqu'un qui avait peut-être des informations inédites. Alors que Gaspard était encore en ligne, Karen Lieberman l'observait à travers la vitre de son bureau. Lorsqu'elle remarqua un drôle de chien en peluche qui dépassait de sa poche, elle comprit que le Gaspard Coutances qu'elle avait connu n'existait plus.